sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman et ce matin nous allons parler d'architecture. Nous recevons Françoise Fromono pour son livre La comédie des Halles, intrigue et mise en scène, paru à la Fabrique Édition, et Frédéric Lucioni, directeur adjoint de la CEMAPA pour le catalogue Paris Rive Gauche et l'exposition qui va avec, qui a lieu à l'Arsenal. Bonjour.
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 Alors, donc le livre de François Fromono fait penser à son livre précédent qui était paru en 2005, La campagne des Halles, Les nouveaux malheurs de Paris, paru aussi à la Fabrique, qui était un livre formidable. Et elle a dirigé la revue Criticat depuis 2008. Et je voudrais commencer à parler de la comédie des Halles en citant un petit passage de François Chalin pour la première partie sur le fait que David Magnien ait gagné le concours. François Chalin, quatre concurrents, quatre propositions, une blague radicale cynique du groupe néerlandais MVRDV, un dance floor transparent sur toute la surface du site, un étouffe chrétien de Jean Nouvel, beau projet au demeurant qui aurait pu l'emporter si l'architecte avait pu contrôler sa boulimie, une proposition renversante et intellectuellement splendide de Rem Koolhaas, qui est dans toutes les mémoires et qui restera dans les livres d'histoire des imaginaires urbains, et un outsider venu du sérail, familier de l'administration et de l'atelier parisien d'urbanisme, qui triomphera la queue basse sans la gloire. L'affaire sera confiée à David Magnien pour la pertinence de son analyse urbaine, expliquera à Bernard Delanoë Furibar. Un jardin assez banal se refermait à jamais comme un couvercle sur le centre commercial qui était le seul vainqueur. Ça, c'est la première partie du livre sur le...
Ça, c'est la manière dont François Chalin résume brillamment l'issue du premier des deux concours qui ont eu lieu sur le site des Halles dans les 15 dernières années. Ça, c'était le premier concours d'urbanisme. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième concours d'architecture pour décider de la forme que prendrait la couverture du forum et qu'a gagné Patrick Berger avec sa canopée.
Pour la canopée, oui. Et donc, vous racontez l'épopée de cette canopée et la privatisation du centre, du forum, en fait. C'est ce que raconte votre livre.
Il raconte l'ensemble, il essaie de rendre clair les événements, les enchaînements d'événements, les acteurs, les enjeux, les projets, les conséquences, et puis le paysage que tout ça a donné à Paris au fil des presque 20 ans, au fond. Non, pas tout à fait. Enfin, tout ça commence en 2002, on est en 2019, donc 17 ans d'une opération au long cours qui visait à réformer une énième fois le centre de Paris. Donc le sous-titre que vous citiez tout à l'heure, intrigue et mise en scène, résume un peu la structure du livre. Dans une première partie, je raconte un petit peu ce déroulement en le structurant par les grands sujets un peu qui sont rendus patents par cette affaire, les questions politiques, les questions de participation, les questions de communication, les questions de privatisation et d'économie. Et puis dans une deuxième partie, la mise en scène, c'est un peu un retour sur les lieux et une analyse plus architecturale des conséquences de tous ces événements.
Et donc il y a un effet Bilbao aussi, il y a donc toutes ces grandes capitales se disputent à coup de monuments spectaculaires. Et là, c'est plutôt raté, en fait.
C'est-à-dire que, là encore, il faut revenir à 2004 et à l'issue du premier concours, donc qui confiait à David Mangin le soin de s'occuper un petit peu de la surface du site des Halles avec un jardin assez conventionnel, et puis de réparer un peu les sous-sols qui étaient très dysfonctionnels, notamment la gare, qui était un tas de problèmes de sécurité. Donc il avait une sorte de charge un peu technique de l'urbanisme, plus celle de l'aménagement d'un jardin. Ensuite, pour la couverture, le deuxième concours, la couverture du forum, évidemment, on était à l'époque où, avant la crise de 2008, la demande d'icônes architecturales était très très forte dans les capitales qui se retrouvaient en concurrence, les capitales du vieux monde, en concurrence avec des nouvelles villes mises sur la carte du monde par l'effet Bilbao, en effet, mais aussi des capitales asiatiques, Shanghai, les villes montantes du Golfe. On assiste assiste à cette époque, ça continue dans une moindre mesure, à une sorte de bataille d'image, de bataille de communication entre les villes pour leur attractivité économique, touristique, etc. Et la canopée, enfin le concours pour la couverture du forum qui s'est soldé par ce choix de cette proposition à la fois très spectaculaire, difficile à réaliser, un peu mensongère quand même, il faut bien le dire, au regard, quand on regarde aujourd'hui les images du qui ont gagné le concours, c'est flagrant. Et bien tout ça procède, c'est ce que j'essaie de décrire, ce contexte, c'est une petite histoire des mentalités contemporaines au regard de la ville, à travers le cas des Halles qui les porte à incandescence, que j'ai essayé de faire.
Absolument, oui, il y a aussi... il y a une histoire de l'urbanité, dans le sens où c'était sûrement l'endroit le plus vivant de Paris, les Halles, avant, historiquement, et que c'est devenu un centre commercial. Donc,
Oui, mais alors là, je pense qu'il faut... Alors, même si, bien sûr, les Halles du temps de Baltard, le marché central, les cafés, les restaurants, le site qui fonctionnait 24 heures sur 24, le brassage social, le Paris populaire, tout ça a disparu depuis longtemps. Tout ça a disparu fin des années 60, avec le départ du marché. Mais je crois que même la vocation commerciale du site, elle demeure. Le centre commercial, c'est quand même un lieu de commerce.
Oui, c'est comme le marché.
Et il est vrai que le quartier est extraordinairement vivant. Il est irrigué par énormément de gens qui viennent de loin, parfois, pour venir dans ce centre de Paris, acheter des loisirs. Alors on peut, et ça c'est une question politique à discuter, mais regretter ce triomphe de la société de consommation au cœur de la capitale, avec toute sa tout ce qu'elle, est-ce qu'on avait vraiment envie que ce soit un centre commercial qui soit mis en scène par cette énorme enseigne qu'est la canopée et qui ensuite soit vendue par une municipalité de gauche à un des plus puissants opérateurs fonciers du monde pour une bouchée de pain qui plus est, problème qui est rendu encore plus critiquable par le fait de la position spatiale de la gare dans le dispositif des Halles. Et c'est là que mon rôle de critique d'architecture et d'urbanisme peut apporter peut-être un éclairage ou insister sur la manière dont, dans le cas des Halles, l'espace, l'organisation de l'espace, l'espace public, privé, l'espace social, est absolument déterminant pour comprendre les jeux d'acteurs et l'architecture qu'on vient installer dans cet endroit. Donc c'est un lieu très vivant, mais dont, mon point dans une de mes critiques dans le livre, c'est qu'il me semble que toute cette opération a été très très mal conduite, qu'on est passé à une sorte de péché originel, on peut dire, de ce choix de David Mangin, choix par défaut. Bertrand Delanoë n'était pas très enthousiaste de choisir ça. Et puis ensuite, une sorte de surenchère, de compensation pour avoir une icône, ça a coûté trop cher, on a vendu le centre commercial pour renflouer la ville, pour se débarrasser d'un problème. Enfin voilà, il y a eu un enchaînement à la suite d'une enquête quand même assez poussée que j'ai menée. Il me semble que cet enchaînement est à la fois dramatique pour le centre de Paris quand même, mais aussi très typique. Au fur et à mesure qu'on le décortique, on se rend compte à quel point tout ça soulève toutes les questions qui se posent à l'urbanisme aujourd'hui. Le règne de la communication pour masquer des privatisations qui disent plus ou moins leur nom, notamment.
Il y a un autre aspect qui est commun à l'exposition qui a lieu à l'Arsenal et à votre... Votre analyse de ce qui s'est passé au Halles, c'est l'arrivée des groupes de pression, des groupes qui vont intervenir, les riverains, là il y a Accomplir par exemple.
Oui, qui est une association.
Accomplir obtient l'adoption d'une charte de concertation. On va retrouver ça de la même façon. Il va y avoir des opposants à Paris, des gauches, qui vont intervenir. Après, par exemple, aussi un autre point commun, c'est les problèmes de sécurité qui vont faire des jardins très plats dans les deux cas, etc. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler de cette arrivée pour Sempach en parler aussi. Donc, quand il a travaillé autour de la grande bibliothèque, la Bibliothèque nationale, de cette montée en puissance et en même temps de l'inefficacité de ces groupes malgré tout à l'arrivée.
Oui, alors là, il y a un peu deux questions. Oui, en effet, l'idée de la démocratie participative, avec les guillemets de rigueur, qui était une des intentions de Bertrand Delanoë quand il est arrivé au pouvoir, d'ailleurs largement porté par le monde associatif, et qu'en effet, la SEM Paris Centre, qui était à la à la manœuvre pour, au début, à mise en place, et qui a débuté dans un certain enthousiasme. Hein. Les associations de quartier, au départ, étaient assez confiantes dans le fait d'être entendues. C'est vrai qu'Accomplir a été peut-être sans doute la plus offensive, la plus revendicatrice. Et puis là aussi, on a, je le raconte dans un des chapitres, elles sont allées, ces associations, de déconvenue en déconvenue. Alors, le fait de le raconter, c'est une chose. Ensuite, de l'analyser comme peut-être une leçon pour l'avenir, pour essayer de penser la manière dont la consultation des habitants pourrait se faire dans un pays qui n'est pas familier de la participation, où on a une tradition, notamment pour l'urbanisme, d'un ruissellement des décisions du haut en bas, et où la culture de la négociation, de la concertation n'existe pas vraiment ni en haut ni en bas. C'est-à-dire que ça pose énormément de problèmes aux architectes urbanistes. Et comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut faire des projets, les soumettre ensuite à l'avis des riverains ? Est-ce qu'il faut en amont leur demander ce qu'ils veulent ? Auquel cas les architectes et les urbanistes sont réduits au rôle de metteurs en forme de desiderata plus ou moins légitimes, parce que notamment au Halles, qui fallait-il consulter les riverains, les parisiens, les grands parisiens, le monde, les touristes. Ben voilà. Donc c'est aussi le livre, à partir de la narration et de l'analyse un petit peu des événements au Halles, permet de soulever un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui à l'urbanisme. Et votre deuxième point, la sécurité, bien sûr. Les Halles a toujours été, depuis sa réforme, enfin, un lieu réputé, malfamé, dangereux, et la sécurité étant une obsession contemporaine. En effet, le raccourci que vous faites est très juste, c'est-à-dire l'idée d'un jardin plat, de plein pied, qui est au prétexte qu'on puisse le traverser mieux, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout avéré, se résume à une sorte de gigantesque esplanade très minérale et avec des mâts de surveillance absolument partout. Ce qui est sans doute une occasion ratée de donner au centre de Paris un jardin du XXIe siècle.
Parce que c'est la gare du RER, en fait. Il y a l'arrivée des pauvres. C'est la banlieue qui débarque, là, je sais pas, la zone qui débarque dans Paris. C'est vraiment le lieu d'échange par excellence.
Donc oui, il n'y a pas que la zone, il n'y a pas que des pauvres. Il y a aussi des tas de gens. Enfin, c'est très mélangé, la population.
Dans l'inconscient collectif, si ça existe. Mais je travaillais en banlieue, par exemple, en 83, en Yvelines. J'avais rencontré une assistante sociale qui travaillait dans les Halles et qui me racontait qu'il y avait des vrais faits de délinquance. Enfin, il y avait un commissariat qui était surchargé, il y avait un travail intense, il y avait un mélange de populations exceptionnelles qui n'aurait pas été possible dans un tas d'autres endroits à Paris, en surface, comme la Goutte d'Or ou je sais pas, ou des endroits où l'écologie locale, la tenue des rues, le fait de se connaître, l'entre-soi des gens qui y habitent empêche ce genre de choses. Tandis que là, il y a cet anonymat, il y a un effet de masse. Et le flux a augmenté 20 fois, le flux des passagers.
Ah oui, la gare n'était pas prévue pour les 800 000 personnes qui la fréquentent chaque jour, soit en la traversant, soit en montant dans la salle des échanges pour changer de ligne, soit en percolant dans le centre commercial et en sortant. Donc il y a un flux énorme. Mais vous savez, ces questions de sécurité, enfin, ça serait long, trop long de faire un historique de l'idée de la sécurité dans la grande ville. Mais je veux dire, des lieux malfamés avec des mauvais garçons, de la prostitution, des échanges illicites, des violences, des vols de portefeuille, enfin... Je veux dire, ça a toujours existé. Moi, mes grands-parents étaient parisiens déjà, et ils me racontaient que dans le quartier Mouffetard, dans les années, où ils y sont arrivés, dans les années 50, c'était le centre de Paris a été aseptisé, a été vidé, a été ripolliné, a été gentrifié, et notre taux d'acceptabilité de tout ce que on décrit les grands écrivains du 19e qu'on prétend adorer et mettre en évidence n'est plus acceptable du tout. Et ce que je dénonce aussi dans mon livre, c'est cette espèce de normalisation totale de l'espace public. Je dis pas que je suis pour l'insécurité. Mais quand on parcourt la rive droite, on voit bien que cette réforme des Halles a été une manière de mettre au diapason de la gentrification totale du décumanus entre la place des Vosges et le Louvre, enfin, à vocation touristique et commerciale, un lieu qui reste encore un petit peu, qui gratte encore un petit peu.
Non, c'est pas le sujet, mais si on prend le 13e, puisqu'on va parler du 13e après, c'est de jusque dans les années 50. La butte aux cailles finissait dans le cave sur Rebif, c'était considéré comme un endroit dangereux. Mmh. Sans parler des bastions, etc. Enfin, ça va. C'était. Et puis on voit bien ce que c'était, enfin, le l'armée du salut du Corbusier, tout ça, c'était des endroits qui étaient vraiment très, 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 très dangereux. Oui, toute la rue du Chevaleret, tout ça, c'est des endroits qui reviennent de très, très loin. Mais enfin, ça, c'est un phénomène historique. Il y a quelque chose d'amusant aussi dans votre livre, mais je n'en suis pas usagé puisque je suis parisien, mais vous êtes assez élogieuse avec la gare du RER, les travaux sur le RER.
Là, bah, je vois. C'est-à-dire que, vu la situation, là encore une fois, spatiale de cette gare, qui en fait une espèce de gigantesque... piège, enfin je veux dire, on a rappelez-vous, enfin je sais pas si les auditeurs sont conscients de la coupe un peu verticale sur les Halles avec le jardin en surface.
Ils en sont pas conscients, je dirais.
Hein, le jardin en surface de la ville. En dessous, vous avez trois niveaux de centre commercial et puis des équipements vers la bourse de commerce. Et puis encore en dessous, donc niveau -4, -5, vous avez la gare qui est prise dans un étui en béton sous tout ça. Et en plus, dont les hauteurs sous plafond sont faibles, parce qu'au moment de la construction du forum, enfin du complexe enterré, on a privilégié, on ne pouvait pas creuser jusqu'à des profondeurs folles, la Seine n'est pas loin, enfin voilà, tout ça posait beaucoup de problèmes. Donc on a réduit les hauteurs sous plafond dans ces espaces gigantesques pour en donner un maximum au commerce. Donc c'est un espace irréformable, c'est un espace très difficile qui est au fond d'une sorte de structure qu'on peut très difficilement toucher au point de vue structurel, enfin bon, ça pose toutes sortes de problèmes. Donc ce que j'explique, c'est qu'au fond, c'est le second œuvre, c'est un nouveau décor qu'il fallait faire. On ne peut pas vraiment donner de la lumière naturelle, donc il faut simuler un peu tout ça et travailler avec des revêtements. Et il me semble que, vu ces conditions, ce qu'a fait Patrick Berger dans la gare, est assez méritoire, assez réussi, qu'on s'y repère mieux, qu'elle a été agrandie. Il y a eu avec la RATP, ils ont travaillé sur la récupération de parking pour agrandir les espaces, pour les redimensionner, redonner des axes de lecture par l'espace pour qu'on s'y repère. On s'y repérait très mal. Et puis, ils ont eu cette idée, je trouve, très belle d'inventer un nouveau carrelage. Ça paraît rien du tout, mais Patrick Berger a réinterprété en vert translucide le carrelage canonique du métro parisien, donc ce carrelage blanc chanfreiné, il l'a fait refaire dans une sorte de matériau un peu nacré, je trouve, qui donne une luminescence à la gare et qui l'améliore beaucoup, me semble-t-il.
Elle avait une image, au départ, elle était iconique, elle a figuré dans des films, L'ami américain.
Oui. Subway.
Subway. Oui. Et il y avait aussi une histoire d'odeur, on disait qu'elle puait, il y avait une histoire de colle, de peinture, il y avait... Et c'est un endroit qui s'est... Bon. C'est un petit peu la vocation du RER, c'est de se dégrader. Il y a un fort flux.
Mais c'est des endroits avec des usages d'une intensité folle.
Ouais.
Et en plus, où les travaux sont difficiles à faire, parce que le RER, il s'arrête vers 1h du matin, il reprend à 5h, donc on peut faire des travaux que la nuit pendant 4h. Donc voilà, ça pose des questions.
On ne peut pas fermer les stations comme on fait avec le métro. Enfin, les distances sont
souvent... c'est impossible.
C'est impossible, oui. Et donc aussi sur vos deux ouvrages, sur le premier, celui de 2005, la forte impression que j'en avais gardée, c'était Rem Koolhaas. Et donc là aussi, si on lui avait donné le contrat, lui, il aurait vraiment aéré la chose. Il avait tout à fait une autre conception.
Ah oui, mais enfin, c'est toujours difficile de rétrospectivement se dire que les choses auraient été plus faciles, mais il est vrai que parmi les quatre projets du concours d'urbanisme, celui de Koolhaas était absolument éblouissant. Et moi, j'avais pris parti très fortement pour lui. D'ailleurs, ça s'est joué à un cheveu qu'il soit choisi, je crois. C'est surtout le centre commercial, évidemment, Unibail, qui a fait pression pour qu'il ne soit pas choisi, puisqu'il impliquait une lourde réforme des sous-sols, des travaux dans les commerces, sans doute des sorties, enfin une mise en sécurité de la gare avec des sorties directes, dont évidemment Unibail ne voulait pas, puisqu'il préfère de beaucoup qu'on passe par son centre pour sortir de la gare, ce qui lui fait des chalands supplémentaires. Mais c'est vrai que ce projet de Koolhaas, qui tentait essayer de sortir de cette malédiction de l'infrastructure irréformable, en essayant de la perforer verticalement pour créer des nouveaux programmes qui auraient émergé immergé dans le jardin, faisant du même coup une sorte de jardin presque de sculpture architecturale très, très nouveau, très excitant sur le plan de l'image, et qui surtout donnait à comprendre exactement le fonctionnement de ce site et le réintégrait au fond, ces programmes enfouis étaient réintégrés dans l'histoire de la ville de Surface. C'est ça qui était très magnifique et qui n'a pas gagné. Mais rétrospectivement, vu la manière dont la ville s'est débrouillée avec Mangin, que c'était quand même pas très compliqué, en tout cas moins, on se dit qu'avec Colas, ça aurait été sans doute encore plus.
Mais s'il y avait eu Colas, on aurait eu peut-être un effet iconique comme Beaubourg. Il y a une logique, en fait. Lui, il était copain avec Constant, Archigramme, etc. On aurait eu un arrière-fond idéologique et iconographique, enfin tout ce qu'on veut, une conception de la vie qui aurait marqué, tandis que là, on est dans une continuité quand même assez plate. Hein. On a fait... C'est pas très différent d'une grande surface commerciale à Charenton ou...
Oui.
Je sais pas, moi.
C'est très juste votre remarque sur l'idée que là, c'est la génération qui suit un peu tous ces radicaux, dont Beaubourg est une expression tout à fait extraordinaire.
Absolument, oui. Mais là aussi, donc, on inaugure Beaubourg, on coupe les plateaux, alors que l'idée, c'était les plateaux libres avec une grande flexibilité. Et puis, le capitaine des pompiers de la ville de Paris, pour des raisons de sécurité, oblige à couper les plateaux en deux. Et à l'inauguration, il y a déjà cette marque-là. En fait, c'était un théâtre. C'est la conception. C'est une salle de théâtre.
Oui. Enfin, il faut nuancer aussi le fait que Beaubourg était un concours international ouvert et que le programme qui était celui de Pompidou, enfin, et de ses grands commis de l'État, les grands commis de l'État en charge du projet, était extraordinaire. C'était une nouvelle idée de la culture, une association entre diverses parties de la culture, les musées, les galeries, la bibliothèque publique, l'IRCAM, etc., qui n'avaient à l'époque jamais été mis ensemble. Alors quoi, le programme était un peu pathétique, c'était 15 000 m² de commerce, reloger les équipements de quartier, c'était nécessaire, mais enfin, et la seule nouveauté était un amphithéâtre, enfin une sorte d'auditorium qu'Unibail s'est empressé de faire supprimer. Donc il y a aussi deux poids, deux mesures entre les intentions
avec le
programmatiques.
Projet, oui.
Voilà.
Alors pour conclure sur le pathétique, je lis un petit 5 lignes d'André Ferminger. Ce jardin n'est pas un jardin, l'impression étant à peu près celle d'un terrain vague planté à grand renfort d'invectives par les enfants désunis de l'héritage parcellaire. Un bricolage pittoresque et décoratif, estimé celui qui fut en son temps un des critiques les plus acérés de la métamorphose des Halles. C'est ce qui est pire dans l'esprit des Beaux-Arts, c'est sur le jardin.
C'était sur le jardin précédent,
précédent.
Je pense qu'on pourrait en dire autant du jardin actuel.
Et donc le jardin actuel, c'est pas très réussi, disons que on a de la peine à le voir.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je le vois pas, donc je le sens pas. Je vois pas les corps des gens comme ils s'installent, c'est très difficile. C'est vraiment très très difficile.
Ben oui, on a voulu faire des grandes prairies dans un endroit qui reçoit un nombre de gens absolument extraordinaire dès qu'il fait beau, qui se sont mis au repos tout l'hiver. On a voulu faire un jardin passant, selon l'expression de David Mangin, qui est quand même très minéral, avec des très grandes allées, avec un axe un peu formel, comme ça, entre la bourse de commerce et le forum, qui n'avait aucune utilité jusqu'à ce que le forum soit vendu à Unibail et la bourse de commerce cédée à Pinot. Donc c'est parfait, ça fait un axe de transmission entre... deux méga capitalistes de la planète. Enfin, on n'en finirait pas de regarder les détails qui sont. On oscille entre l'ironie et le drame.
Et puis il va finir en arrière-cour de la bourse de commerce.
Voilà.
Si ça marche pour Pinot, les fils feront tour du bâtiment et iront à l'arrière. Mais bon, ça, c'est une potentialité énorme pour le devenir touristique de la ville de Paris. Si c'est un centre d'art contemporain de ce type-là, en plein centre, ça va faire quelque chose. On va faire une petite pause musicale.
Thank you.
Bon, voilà, maintenant nous allons parler de l'exposition Paris Rive Gauche au pavillon de l'Arsenal avec Frédéric Lucioni, qui est directeur adjoint de la CEMAPA.
C'est ça.
Alors, ce sont des documents entre 1981 et 2016.
Oui, tout à fait. Donc, la CEMAPA était très heureuse de voir le pavillon de l'Arsenal se concentrer sur ce bout de ville qui est Paris Rive Gauche. 130 hectares aménagés depuis 30 ans dans le 13e arrondissement à Paris. Et effectivement, avec cette idée fabuleuse d'avoir mis dans un document toute l'histoire de la construction de ce projet, les différents points de vue depuis l'histoire initiale de cette idée que ces grandes emprises ferroviaires qui étaient des sortes de friches et qui avaient une grande potentialité de développement pouvaient, à l'est de Paris, constituer une nouvelle dynamique urbaine dans cette grande dynamique qui était celle des années 80, où effectivement beaucoup de projets de grande échelle ont été initiés à l'échelle de Paris, mais aussi à l'échelle de la France, mais effectivement notamment à l'échelle de Paris. Et donc c'est vrai que c'est très, très intéressant, même émouvant, de revoir tout ce qui a pu être imaginé, conçu, fait ou ne pas être fait, puisque c'est forcément un livre qui raconte toute l'histoire, y compris celle qui n'a pas eu lieu, mais qui était celle d'un grand territoire pour lequel forcément une telle taille, une telle superficie, des telles potentialités a forcément été le terreau de tout un imaginaire et de toute une idée de fabrication de ce qui est la ville d'aujourd'hui. Alors effectivement, avec des grandes structurations qui sont aujourd'hui restées dans ce qui a été fait dans ce quartier, mais avec tout un tas d'idées formidables, plus ou moins folles pour certaines, mais qui sont en tout cas bien synthétisées dans l'ensemble des points de vue dans ce beau livre.
Donc au départ, on a une friche, on a beaucoup de terrain de la SNCF, on a un grand espace. On a un projet d'exposition universelle pour le bicentenaire de la Révolution qui est engagé à partir de 81 pour qu'il ait lieu en 89. Ça ne se fait pas. Ensuite, on a une idée de faire des Jeux Olympiques à Paris, que c'est ce qui va bientôt se faire. Donc ça fait longtemps que Paris concourt pour être candidat. Ça ne se fait pas non plus. Et en 1991, le préfet donne son feu vert à la plus grosse opération d'urbanisme engagée à Paris depuis Haussmann. Et là, j'ai là... Donc les documents sont très très variés, ont des sources très diverses. C'est vraiment une banque documentaire, ce gros catalogue que j'ai trouvé à ce point de vue-là formidable. Et là, on a un article de Libération. Les expropriations vont pouvoir être engagées. Il est question d'y abriter l'exposition universelle, puis les Jeux Olympiques, puis une cité financière avec vue imprenable sur le ministère des Finances de l'autre côté de la Seine. Perspective qui n'emballa pas les banquiers. Il fut aussi question de faire reculer la gare d'Austerlitz pour récupérer enfin les terrains de ces fameuses voies ferrées. La SNCF refusa fermement. Pendant un temps, on ne sut donc qu'une chose, l'endroit abriterait la future bibliothèque de France. Jacques Chirac ayant proposé un terrain dès 1988, pour le reste, un plan fut commandé à l'atelier parisien d'urbanisme, La Pure, organisme chargé de penser l'urbanisme parisien. Ne pouvant éliminer les voies, La Pure proposa de les redécouvrir. Et un peu plus loin, 1600 HLM perdus au sein de l'équivalent de la moitié de la Défense auront achevé de convaincre que le logement social n'est pas la priorité de l'équipe municipale. Ça, c'était le point de départ en 91.
Oui, effectivement, ce qui est intéressant dans cet ouvrage et ce qu'on vit aujourd'hui, nous, en tant qu'aménageurs de Paris Rive Gauche, la CEMAPA étant la société chargée pour le compte de la ville de fabriquer ce quartier, c'est qu'effectivement, le temps long est celui qui nous caractérise sur cette opération. Elle a quand même plus de 30 ans. Elle a encore 15 ans devant elle parce que l'intervention sur les voies ferrées, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps puisque ça doit se faire dans la continuité de service public qui est celle du fonctionnement des trains. Et donc, c'est du temps de fabrication qui est très long et qui, du coup, amène à absorber les accidents de la vie, les accidents qui sont aussi des accidents positifs. Mais simplement, la part d'aléatoire sur le temps long est forcément multipliée. Et effectivement, un projet urbain qui se développe sur le temps long peut être soumis à des attractions différentes, des décisions du sommet de l'État différentes, un potentiel urbain qui est si grand, forcément, attire des projets. Voilà, on déplace la gare, finalement, on ne la déplace pas. On a une emprise, on va y mettre la BNF. Au départ, ce n'est pas forcément le projet. Mais du coup, le projet s'adapte à l'implantation de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, le projet se construit aussi, finalement, progressivement. Et c'est la résultante d'un projet qui n'est pas un projet dessiné à un instant T et fabriqué dans les 5 ou 6 ans, qui est le temps habituel ou 10 ans de fabrication d'un quartier urbain, comme peuvent l'être d'autres quartiers à Paris. On est sur quelque chose qui est très évolutif, très finalement réactif et qui s'adapte à l'évolution que peut être celle de la ville par rapport à la potentialité que représente ce site. Donc c'est assez intéressant pour ça de voir que finalement le projet, quand il sera regardé par ceux qui seront là au moment où il sera terminé, et il y a encore un peu de temps, j'espère qu'on sera encore tous là, finalement sera la résultante de tout un tas de décisions qui auront été finalement le fruit de décisions avec une cohérence d'ensemble, mais qui auront été aussi un peu le jeu du hasard de telles décisions nationales, qui fait qu'à un moment donné, un projet se sera construit par le maintien de bâtiments qui au départ devaient être plutôt démolis. Je pense à tous les bâtiments patrimoniaux du patrimoine industriel de la SNCF, la Alfressinet, les Grands Moulins, le Frigo. Tous ces bâtiments-là, dans le projet initial, ils étaient démolis. Voilà, ils ont été maintenus notamment parce que il y a eu une forte émotion des défenseurs du patrimoine. Le projet s'est du coup construit en les protégeant, avec des types d'usages différents, une université, un incubateur de start-up, des choses très différentes qui finalement sont aussi le fruit du temps long qui permet de voir les choses des fois se maturer. Et on a tous en tête des expériences de projets urbains dessinés, conceptualisés dès le départ, fabriqués très très vite parce que le terrain est disponible et la décision politique est prise. Et ce sont de nombreux territoires urbains sur lesquels aujourd'hui on fait du renouvellement urbain parce que on s'aperçoit peut-être après coup que certaines idées n'étaient pas forcément les bonnes dans les usages, dans les pratiques. Je pense à l'urbanisme de dalle au sens de la dalle qui n'est pas au niveau du sol. Voilà, donc c'est aussi cette vision positive qu'il faut avoir de ce temps long dans les projets, c'est que c'est toujours la possibilité de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir, est-ce que c'est la bonne idée d'avoir un regard un peu différent qu'un projet dessiné de A à Z sur une feuille blanche. Là, le projet tient compte du déjà-là. Et le temps long fait aussi que ce déjà-là est structurant dans l'approche de la construction de ce quartier.
Mais, par exemple, l'avenue de France est une absurdité puisqu'elle était basée sur le fait qu'on allait raser la gare d'Austerlitz. Donc on a ce genre de choses, ou alors on a un gros retournement aussi dans le déroulement linéaire des faits en 2008 à cause de la crise immobilière, et il faut se retourner vers l'État, d'où le développement de tout le pôle universitaire qui est très très important, et donc où le ministère des Sports, enfin on a plein de services d'État qui sont venus s'installer. Donc on a des bifurcations brutales de ce type-là.
Pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit la crise qui est faite. Finalement, le temps long a aussi été, pour cette opération, lui donne la possibilité, on l'a vécu à la CEMAPA, on le vit au quotidien, permet aussi d'avoir cette possibilité d'absorber les coups de grisou des contextes macroéconomiques. On a la possibilité de prendre le temps de développer. Le choix de l'implantation de l'université date de la fin des années 2000, donc bien avant la crise immobilière de 2008. Hein. C'est une décision de U3M, Université 3e millénaire. Donc c'est une décision qui avait une bonne dizaine d'années.
C'est lié à Jussieu.
Absolument, c'est lié à Jussieu.
Au problème de l'amiante, etc.
C'est lié à Jussieu, donc c'est plus lié à ça. Après, la crise économique, elle a été effectivement importante, mais elle n'a pas marqué tant que ça le territoire. C'est plutôt celle des années 90 qui sur l'aménagement du quartier Masséna, le quartier autour des Grands Moulins, a amené la CEMAPA et la ville à l'époque à prendre le temps de ne pas commercialiser inutilement et de façon, je dirais, non maîtrisée et dans une forme de braderie. D'une fuite en avant en braderie en se disant prenons notre temps, le temps long étant pour le coup celui de cette opération, c'est aussi un avantage de se dire on a le temps de laisser passer l'orage pour bien être sur les orientations du projet et ne pas adapter le projet à la crise, mais plutôt faire en sorte que la crise n'impacte pas le projet.
Mais là aussi, alors sur la concertation avec les groupements qui intervenaient, qui étaient nombreux et tout, on peut pas dire que le résultat soit très probant en matière de par exemple, l'espace vert, c'est quand même assez restreint ou privatisé au seuil des immeubles, donc des cours intérieurs auxquels on n'a pas accès. On a quand même un sentiment de coup par coup, comme ça, de boue qui se rajoute, de tranches, de réactions. Je sais pas si vous voulez intervenir.
Non, mais effectivement, il y a une logique, j'allais dire technique, hein, qui est que l'aménagement de ce quartier, il se fait progressivement au fur et à mesure de la libération des terrains par la SNCF. Il n'a pas la possibilité de se faire d'un seul coup. Et c'est aussi pour ça qu'il a été construit avec plusieurs architectes coordonnateurs pour pouvoir avoir déjà de par la taille du projet, c'était quand même plutôt logique de ramener à une échelle plus réduite l'intervention des urbanistes pour pouvoir avoir sur des secteurs donnés une vision à peu près cohérente dans une vision d'ensemble, mais qui tenait aussi compte du fait que la libération du foncier ferroviaire est quelque chose qui est très progressif, très lent, très long et qui doit effectivement être pris en compte dans l'approche. Alors effectivement, ça peut donner une vision un peu de coup par coup ou d'avancée progressive. On voit que l'avenue de France n'est construite que d'un côté pour l'instant, celui de la BNF en plus qui est un peu qui donne une grande place au vide. On voit que la séquence commence à se construire de l'autre côté entre Alfred Sinet et l'avenue de France et que une vie de quartier commence à émerger. On commence à avoir une véritable avenue avec, deux façades. Avec, malgré tout, effectivement, une opération qui tient compte de ce qui a été décidé par le passé. Effectivement, une grande avenue large, très routière,
mais
très monumentale.
Mais qui est faite par Paul Andreu, donc qui est faite par un aménageur d'aéroport.
Exactement.
C'est pas Gilles Clément, il y a quand même une conception de la vie.
Qui est un ouvrage d'art, parce que c'est un grand pont, finalement.
Hyper dessiné,
une dalle,
très froid.
Voilà, alors, moi, je le dirais pas comme ça. Effectivement, c'est une dalle techniquement parlant. Après, le projet tel qu'il est conçu n'est pas de l'urbanisme de dalle, puisque c'est, au contraire, permettre d'avoir un espace public fabriqué au-dessus des voies ferrées, donc par définition il n'est pas en pleine terre, mais qui se vit comme un espace public parisien, ou comme un espace public, urbain, pour lequel on passe de l'ancien 13e à cet espace construit au-dessus des voies ferrées, sans rupture, à part celle de la topographie, mais qui était absorbée avec la difficulté qu'il y a malgré tout une pente à absorber, mais qui était réfléchie en essayant de limiter au maximum l'effet de rupture avec des rampes, des jardins, des escaliers,
jardins,
mais qui pour le coup se vit en tout cas quand on est sur l'avenue de France et quand on est un piéton, non pas comme un urbanisme de dalle, puisqu'on a l'ensemble des fonctions qu'on trouve sur un espace public, les voitures, les piétons, les bus, les entrées de métro, les vélos, les commerces, les rez-de-chaussée, donc ce qui se vit dans toute rue classique à Paris, contrairement à ce qu'on appelle l'urbanisme de dalle, où vous avez effectivement une vision très, très verticale des fonctions, l'autoroute au rez-de-chaussée, les parkings au-dessus et les piétons sur le toit de la dalle.
Et vous avez eu un espèce de miracle qui vous est arrivé, c'est là Alfred Sinet. Elle devait être détruite, enfin ça a été très très long. Et puisqu'on parlait des halles avant, en phénomène d'attraction, de visualité, de communication, de tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui, de start-up, de réussite, de les chefs d'État étrangers qui viennent visiter la halle Alfred Sinet, c'est quand même extraordinaire.
Mais c'est aussi le fait du temps long, hein. Encore une fois, le choix fort a été, notamment, il a été pris par Bertrand Delanoë et son équipe, avec ce que vous disiez tout à l'heure, quand on parlait des halles, sur l'interaction avec le tissu associatif, la concertation qui a été effectivement sur Paris-Rive-Gauche très, très structurée, qui a donné lieu à une charte qui a ensuite été reprise sur les Halles, avec des débats vifs, hein, des débats actifs, des associations qui se sont emparées de ce sujet, avec des débats contradictoires, des frustrations, des décisions qui ont pu être prises qui ne sont pas forcément celles qui étaient prises, qui étaient forcément celles de toutes les associations, qui n'ont pas d'ailleurs toutes le même point de vue. On le vit aujourd'hui, nous, au quotidien, avec nos groupes de travail. Mais on a effectivement là un élément fort qui a été la préservation du patrimoine, et puis ce temps long qui fait qu'à un moment donné, on a un lieu qui a été préservé, sur lequel la SEMAPA réfléchissait à ce qu'il pourrait devenir un jour en fonction après le départ de la SNCF. Un travail parallèle avec les associations de la concertation, notamment les gens des frigos, sur tout ce qui était la dimension des activités à développer dans Paris-Rive-Gauche, avec un débat qui est qu'est-ce que sont les activités aujourd'hui quand on parle de PME, de TPE, d'artisanat, de fabrication. On est sur des choses qui sont aussi des éléments qui évoluent dans le temps. On voit que l'industrialisation va vers la miniaturisation. Les imprimantes 3D sont les nouveaux outils par rapport à la grande presse et au massicot des années précédentes. Donc tout ça est un élément à intégrer. On fabrique aujourd'hui les choses par ordinateur. Donc finalement, un artisan est aussi quelqu'un qui est assis derrière un bureau à fabriquer avec un logiciel et d'appuyer sur un bouton pour que ça imprime dans la pièce du dessous. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça s'est croisé entre le besoin d'un lieu d'activité et un opérateur qui voulait faire des start-up sur Station F.
Oui, je voulais intervenir parce que quand même, vous réécrivez l'histoire à l'avantage de l'histoire officielle. Enfin, je veux dire, toute la conservation du patrimoine, pour ne prendre que ce point et ce mot un peu discutable, elle s'est faite parce que les gens ont lutté pour qu'il le soit.
Bien sûr, mais complètement.
Les frigos, ils ont été conservés à la suite d'une lutte homérique des gens qui les occupaient. Les bâtiments industriels qui devaient être rasés et qui sont maintenant les pôles universitaires, ils ont été conservés aussi grâce aux associations et peut-être aussi à un très beau projet qu'avait fait Jean Nouvel, je crois, en 1993, alors qu'on l'interrogeait sur l'arrivée de l'avenue de France vers le quai d'Austerlitz. Il avait décidé de son affaire un projet sur l'ensemble, dans lequel, voilà, avec un gigantesque parc
qu'on retrouve dans le livre,
donc on pourra le voir. Et ça, je pense que dans l'imaginaire, collectif, comme vous dites, ça a influé. Et la halle Fraissinet, enfin, écoutez, il faut être sérieux, elle devait être démolie, ville voulait la démolir. C'est les défenseurs de cette magnifique structure de Fraissinet, qui est unique en son genre, magnifique, qui a été complètement enclavée par toute la construction de la dalle sur laquelle se trouve l'avenue de France, qui a permis de la sauver et dont maintenant on entend dire que grâce à la ville on a ceci, cela. J'espère que dans le livre
Dans le livre, il n'y a pas d'expression de point de vue pratiquement. C'est une bande documentaire.
La charte dont vous parlez, elle a été gagnée de haute lutte par les associations.
Je ne contestais pas ça.
Il faut quand même le rappeler.
Ah, mais tout à fait. Je le rappelle bien volontiers.
Contestation très
absolument,
très forte,
absolument, dans les
et qu'un
90.
Certain nombre de points qui ont permis de sauver un petit peu ce projet ont été le fait de critiques, de contestations de toutes sortes de parts de la société civile qui ont tempéré un petit peu ce bétonnage absolument incroyable de 1,7 km de Paris. Quoi.
Enfin, mais je vous rejoins sur ces sujets-là. Effectivement, les années 90 ont été des années très très... très très violente en termes de concertation, et c'est effectivement encore une fois le fruit de ces débats, de ces échanges, qui fait qu'à un moment donné les décisions prises ensuite par les élus, parce qu'à un moment donné il y a du débat et des décisions sont prises par ceux qui sont en responsabilité, en l'occurrence Bertrand Delanoë à l'époque, a été la préservation de cette halle, avec d'ailleurs des débats, hein, doit-elle être préservée dans sa transversalité ou dans sa longitudinalité. Il y a eu tout un débat, doit-elle être préservée intégralement, pas intégralement. Finalement, une décision très, très, très simple a été prise, elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et ça n'a pas empêché un projet de se faire sur ces bases-là.
Et l'exposition, elle est en fait pour amener le Paris Brunsseau, ouais. C'est ça le concept de toute l'exposition, c'est le développement se continue vers Ivry. Dynamique, elle est là.
Ouais, la dynamique, elle est aujourd'hui effectivement sur la partie est du territoire de Paris Rive Gauche, le territoire en proximité d'Ivry, effectivement, avec une dans cette évolution des choses quand même qui était celle des années 2000 dans la façon de construire l'urbanisme à Paris, c'est quand même de construire l'urbanisme aussi en se tournant vers la métropole et en discutant de façon quand même plus étroite avec les communes limitrophes et donc trouver sur ce secteur de Brunzo, donc là, qui est la frontière entre Paris et Ivry, cette idée que les territoires devaient se mailler, devaient se coudre et devaient trouver une façon de se connecter davantage qu'ils ne l'étaient aujourd'hui, avec une grande emprise qui était infranchissable, qui était celle du boulevard périphérique, qui était construite sur un talus, et pour lequel un choix fort porté par Yves Lyon a été finalement de transformer ce périphérique talus en périphérique pont.
Et, c'est le boulevard des Maréchaux plutôt.
Non, le périphérique aussi. Donc le périphérique qui a été totalement reconstruit par la CEMAPA sans jamais s'interrompre, ce qui était une prouesse technique quand même que j'en profite pour saluer.
Ce qui a permis de désenclaver le terrain.
Et aujourd'hui, on pourra passer dessous. Et donc aujourd'hui,
parce que j'avais en tête le pont près de l'école d'architecture.
Exactement. Et ben c'est cette idée qu'on puisse continuer jusqu'à Ivry, dans l'axe de la rue François Mitterrand, pour connecter Paris à Ivry par le dessous, puisque par le dessus, ça impliquerait vraiment de passer très très haut, puisque le périphérique passe au-dessus des voies ferrées de la gare d'Austerlitz, de la Seine et de la gare de Lyon, donc on ne peut pas l'enterrer à cet endroit-là. Enfin, en tout cas, il n'a pas été fait le choix quand il a été construit d'être enterré. Donc, passer dessus, ce serait vraiment passer à 30 mètres au-dessus du sol. Donc, ce serait encore une frontière. Et donc, l'idée de passer au niveau du sol dessous et donc de faire revenir la ville à cet endroit-là. Et donc, par différents projets, dont effectivement, Brunzo a fait l'objet d'une démarche assez innovante d'appel à projet récemment, qui mixte des équipements privés, des programmations privées, avec la programmation publique que la CEMAPA a engagée par ailleurs le long du boulevard des Maréchaux, où il y a des logements sociaux, des crèches, des écoles, des jardins qui sont programmés ou en chantier et qui viennent, je dirais, compléter l'offre qui sera celle de ce nouveau lieu qui a vocation finalement à être une future centralité, comme on dit dans notre jargon, une forme de nouvelle place du Grand Paris, plutôt qu'être une énième porte de Paris, de façon à avoir un lieu qui donne envie de s'arrêter, auquel on a envie de venir pour les fonctions d'usage qu'il pourra proposer.
Bon, je ne sais pas si c'est encore d'époque, la tour du haut de Nouvelle, par exemple, le fait de faire des tours, de construire ce genre de choses.
Oui, absolument. C'est le parti pris de ce secteur Brunzo, le choix que portait Yves Lyon, c'est effectivement pour qu'il y ait cette centralité et cette intensité d'usage et cette vie suffisante pour que ça, je dirais que la mayonnaise prenne. Il y avait une notion aussi au-delà de la notion de grand paysage qui est celle des réflexions des années 2000 sur où est-ce que le grand paysage peut absorber de la hauteur à Paris, où est-ce que ça peut avoir du sens. Plusieurs projets sont sur plusieurs sites à Paris existent, certains sont déjà livrés, le tribunal de grande instance aux Batignolles, d'autres projets évidemment qui font le feu de l'actualité, la tour Triangle. Bercy-Charenton et le quartier de Paris-Rive-Gauche, Brunzo. Et donc cette idée de besoin d'intensité pour que ce quartier puisse vivre et donc effectivement amener suffisamment de personnes pour que la vie puisse fonctionner en termes d'intensité d'usage, même si on est globalement sur une densité in fine qui n'est pas très élevée, hein, qui est celle du quartier, le secteur Brunzo où il y a effectivement des projets de tours, sera effectivement d'une densité équivalente à celle du quartier des Grands Moulins autour de la Halle aux Farines et des Grands Moulins. Donc c'est une densité assez classique dans une opération d'urbanisme à Paris, avec effectivement des projets de grande hauteur qui suscitent débat, mais qui sont effectivement aujourd'hui en chantier. La tour du haut est aujourd'hui... L'infrastructure émerge du Maréchaux, et le projet Brunzo qui est lancé prévoit effectivement la construction d'autres tours de grande hauteur.
Mais alors si la densité est la même, pourquoi ne pas avoir continué sur les mêmes modèles d'îlots denses comme ceux qui ont été construits il y a une quinzaine d'années? Pourquoi avoir recouru aux tours?
Écoutez, ça, c'est un choix qui est celui qui a été porté par les élus parisiens. Il s'intègre.
Non, mais à votre avis?
Je pense qu'il s'intègre aussi dans le fait qu'on est dans des endroits qui, du point de vue du paysage, le permettent. Ce sont des endroits où les infrastructures sont fortes et donc la façon de faire venir la ville à l'échelle des infrastructures qui existent a été celle de la grande hauteur. Et que la grande hauteur est aussi une approche intéressante en matière de limitation de l'emprise au sol. Tout en offrant les surfaces des surfaces de plancher adaptées aux attentes des différents types d'usagers, que ce soit des salariés qui peuvent avoir besoin de surfaces de bureaux aux normes, je dirais, aux normes environnementales, en tout cas plus efficaces que les bâtiments passoires des années 70 ou des années 50 ou 60 qu'il peut y avoir ailleurs dans Paris. Ça s'inscrit aussi dans cette logique de développer un rééquilibrage puissant de l'offre entre l'habitat et l'emploi à l'est de Paris. C'est ce que prévoit le plan d'aménagement et développement durable de Paris, hein, de rééquilibrer l'emploi vers l'est parisien. Et donc pour ça, il faut aussi à un moment donné avoir des surfaces qui sont suffisamment importantes pour créer cette attractivité, les ramener au plus près des offres de transport en commun, que ce soit ligne 14 ou que ce soit le tramway, et offrir suffisamment de surfaces pour être aussi des éléments de contribution à ce que tous ces bureaux, finalement toutes ces surfaces facilement transformées en logement dans le cœur de Paris puissent redevenir du logement sans que les emplois ne se retrouvent sans offre, puisque on vit aujourd'hui, effectivement, après on peut le critiquer, on peut le contester, on peut le déplorer, mais il se trouve que la demande de surface pour les salariés, elle se fait d'abord dans Paris avant de se faire dans l'Île-de-France et dans la Grande Couronne, et l'offre de bureaux qui peut se retrouver en Grand Couronne ne correspond de toute façon pas aux besoins de gens qui sont dans des bureaux à Paris, qui sont en recherche de surface de bureaux, j'irais aux normes.
Mais vous pensez qu'on manque de surface de bureaux ? On manque de surface de bureaux à Paris ?
Non, je ne dis pas qu'on manque de surface de bureaux à Paris, je dis qu'elles sont peut-être mal positionnées dans cette logique de répartition sur les territoires parisiens, entre l'Est et l'Ouest parisien. Et l'idée étant que l'Est parisien doit aussi être une surface dédiée à l'activité et à l'emploi, et pas juste à accueillir des surfaces dortoirs. C'est le grand projet parisien depuis 20-25 ans de rééquilibrer. Il se retrouve aussi dans le SDRIF régional. C'est des grandes tendances et des grandes mouvances qui sont celles de rééquilibrer l'habitat et l'emploi vers l'Est. Voilà, ce qui était un grand mouvement qui est quand même se traduit par cette forme urbaine qui est celle que nous sommes amenés à développer et qui, en tout cas, ne pose pas de problème en termes d'attractivité par tout type de preneurs et qui, y compris même en termes d'habitat, commence à être un sujet qui intéresse les opérateurs au-delà des surfaces de bureaux purs, sachant que, encore une fois, on est sur des programmations très mixtes, hein, on a de l'hôtel, on a des surfaces d'activité, on a des surfaces pour les PME-TPE et on a aussi évidemment des surfaces de bureaux dédiées à des activités pour les salariés qui sont des salariés classique à Paris. Hein. Il se trouve qu'il y a aussi des cols blancs dans Paris et donc ils trouveront là des besoins, entre ils trouveront là une surface, des bureaux adaptés à leurs besoins.
Bon, ben.
Et on peut en avoir une lecture assez différente dans la mesure où l'idée d'installer des tours à cet endroit, au bout de cette rive gauche, date de 2002.
Il y a toujours un fantasme depuis le début de faire depuis la défense. Mais de c'est faire la défense là-bas, toujours.
Pas faire la défense, mais il y avait
ce fantasme quand
tout
même.
Tout ça est né au même moment où, au Hall, on veut, enfin, pour revenir au Hall, cette politique des icônes que j'expliquais rapidement tout à l'heure, les tours, c'est pas du tout une nécessité, ni en termes de densité, ni en termes de...
Ça paraît très fragile au point de vue énergétique.
C'est des objets très énergivores.
Attendez, je finis juste.
C'est très énergivore, ça pose des tas de problèmes de sécurité dès qu'on monte à tel... Enfin bon, voilà, tout ça est très documenté, on le connaît. Simplement, moi, ce qui me semble être plus juste comme analyse de cette volonté absolue de mettre des tours au bord du périphérique, c'est la volonté de créer, de rendre visible une politique urbaine par des objets iconiques qui, d'ailleurs, faut voir, ils sont quand même construits, attribués à Jean Nouvel. Les tours du haut, elles ont un profil déhanché, qui est d'ailleurs assez daté aujourd'hui, parce qu'elles ont mis tellement de temps à se construire, elles sont même pas encore sorties de terre, qui témoignent de cette volonté de fabriquer des objets très frappants, qui sont là pour...
C'est un signal, oui.
Oui, créer le signal que Paris bouge, comme on dit. Voilà. Alors que, moi je le dis souvent, Paris c'est la ville où s'est inventée la densité horizontale d'une manière absolument éblouissante. On aurait pu tout à fait continuer cette réflexion. Voilà, il y a une spécificité parisienne qui aurait pu tout à fait se prolonger avec des... Là, être vraiment dans l'innovation et non pas la copie de ce qui se fait partout. Et ce que je trouve absolument incroyable et très intéressant d'ailleurs dans Seine-Rive-Gauche, c'est que dans le temps long, comme vous l'appelez, obligé un peu d'une opération avec autant de contraintes, eh bien, si on regarde les tranches qui se sont succédées, eh bien, on passe, il y a 20 ans, 25 ans, des premières tranches qui sont autour de la bibliothèque, qui témoignent voilà, de la volonté de fabriquer des îlots fermés, des rues, un plafonnement, voilà, toute cette rhétorique du retour à la ville de ces années-là. Puis, ensuite, l'opération guidée par Ports en Parc, qui malheureusement n'a pas du tout été réalisée comme il l'aurait voulu, je pense, France, de l'île Ouvert, etc., etc., jusqu'à ces tours, ces bâtiments de plus en plus hauts, de plus en plus distinctifs, de plus en plus colorés, de plus en plus singuliers, qui, avec le retour des tours, marquent le retour à tout ce que l'urbanisme du début voulait critiquer et se constituer comme alternative.
Il est 10h. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Allez voir l'exposition au pavillon de l'Arsenal et lisez La comédie idéale de Françoise Fromono, parue à la Fabrique. Merci, à la semaine prochaine.